Bonjour, vous êtes à nouveau en direct sur Radio DTC pour l'émission De Colonne à la Une, qui retransmet toute la journée le Salon Masonica en direct de Bruxelles. Vous allez assister donc à une conférence dont l'intitulé est « Comment la franc-maçonnerie vient aux femmes ?» avec comme intervenante Marie-Dominique Massoni de la Grande Loge Féminine de France et Dominique Ségalène du Droit Humain de France. Et vous avez comme modérateur Martine Van Breusegem de la Grande Loge Féminine de Belgique.
Mesdames, Messieurs, mes sœurs, mes frères, bonjour et bienvenue. Donc nous allons parler de la place de la femme dans la franc-maçonnerie avec nos deux interlocutrices. Tout d'abord, Marie-Dominique Massoni de la Grande Loge Féminine de France, comme on vient de vous le dire. Qui est-elle? Eh bien, elle dirige la collection de livres « La voix de l'initié ». Elle est également secrétaire de rédaction du Maillon en France, qui est une revue interobédientielle publiée chez De Trade. Et puis, elle a écrit plusieurs livres sur la maçonnerie, « Femmes et initiation, du féminisme et de sa quête en franc-maçonnerie », qui a reçu le prix du livre maçonnique catégorie symbolisme en 2015. Et puis, pour terminer, elle est membre de la commission d'histoire de la Grande Loge Féminine de France. Et puis, à ma droite, Dominique Ségalène, qui est donc au droit humain de France. Elle est au comité de l'histoire de la Fédération française du droit humain. Elle est à la fois graphiste et romancière. Elle a publié des romans chez une éditrice belge, Luce Wilquin. Elle a également écrit deux monographies de membres fondateurs du droit humain, sa spécialité étant, on peut le dire, la reconstitution historique. Et puis, elle vient de publier un livre sur l'histoire du droit humain, qui a reçu le prix de l'Institut maçonnique de France, section Histoire, en 2016. Alors peut-être que pour commencer ce débat, il serait important de savoir depuis quand il y a des femmes en franc-maçonnerie. Eh bien, Marie-Dominique Simonet, depuis bien plus longtemps que les femmes ont le droit de vote, puisque ça remonte au 18e.
Oui, ça remonte au 18e siècle. C'est-à-dire que cette année, nous allons fêter le tricentenaire de la franc-maçonnerie. Et en fait, dès que des loges masculines ont existé, il y a eu un intérêt au XVIIIe siècle des femmes qui étaient, enfin celles qui étaient un petit peu privilégiées, qui auraient bien aimé elles aussi partager les avantages de cette parfaite amitié. Seulement, voilà, il est arrivé très rapidement un interdit: no slaves, no women, pas d'esclaves, pas de femmes, mais des hommes libres. Et en fait, quand l'interdit est tombé, il y avait déjà des loges d'adoption, du moins qui commençaient à exister, des loges, on ne sait pas, bon. Et il y avait eu des femmes initiées. Je vous raconterai éventuellement, si ça vous intéresse, quelques anecdotes après. Ce qui est certain, c'est que sur le continent européen, se sont développées tout au long du XVIIIe siècle un certain nombre de loges dites d'adoption. Le schéma étant celui-ci, il y avait des loges d'hommes, et on disait souché sur ces loges d'hommes, il y avait des loges de femmes, mais qui étaient en quelque sorte sous l'aide, on va dire, de frères qui les aidaient à mener leurs rituels. Les rituels féminins n'étaient pas tout à fait les mêmes, voire pas du tout, que ceux des hommes. Pourtant, ils leur permettaient un cheminement initiatique très intéressant qu'on a longtemps sous-estimé. Et aujourd'hui, on se rend compte de l'importance qu'ils avaient. D'une part, parce que de leur côté, ils ont transmis un certain nombre d'éléments sur les recherches initiatiques en général. Et d'autre part, parce qu'ils permettaient aux femmes de réfléchir sur des thématiques qui, surtout à cette époque-là, leur étaient spécifiques. Ce qui était intéressant aussi, c'est qu'au XVIIIe, alors que les femmes n'avaient aucun droit, ni civil ni civique, eh bien, en maçonnerie, dans les loges d'adoption, elles votaient. Donc, la première trace, on va dire, de vote des femmes, on va la trouver dans la maçonnerie d'adoption. Mieux encore, ou plus, de manière un peu plus drôle, si les rituels de l'adoption pouvaient sembler à première vue très moralistes, Mais bon, le siècle XVIIIe était quand même chrétien, donc on leur inculquait certaines valeurs. D'une part, Ève n'était pas une pécheresse, mais elle transmettait la connaissance, donc c'est quand même important. Et il y avait un rituel dit de l'Amazonie anglaise qui incitait les femmes à se rebeller, à se révolter et à ne pas admettre la soumission. Donc il y a quand même, dans la maçonnerie d'adoption, bien avant la Révolution française, des éléments qui nous paraissent intéressants historiquement. Au XIXe siècle, la maçonnerie d'adoption périclite. Mais on va assister à un autre phénomène, et je vais donner la parole à Dominique. Je reviendrai sur l'adoption après, une fois que tu auras parlé.
Oui, alors le droit humain est né sous la Troisième République. Il a été mixte dès le départ. En fait, c'est parti des bourgeoises, et surtout d'une bourgeoise très instruite et qui était célibataire et aisée, ce qui était la seule occasion à l'époque pour que les femmes puissent avoir une certaine autonomie, certaines décisions. Voilà. Et elle a tenu un salon philosophique très fréquenté par les francs-maçons, les libres penseurs. Et dans ce salon philosophique, il était question, bien sûr, de république. C'était à la naissance de la Troisième République. Tous les jeunes républicains souhaitaient faire de grandes réformes qui étaient importantes de faire au XIXe siècle, suite à la révolution industrielle, avec une grande misère ouvrière, la dénatalité, qui était une cause nationale. Mais les femmes ne pouvaient participer à rien, parce que, comme vient de le dire Marie-Dominique, elles n'avaient strictement aucun droit civil et civique. Le code civil de 1804 les considérait comme des mineurs, au même titre que les enfants, les criminels ou les fous. Donc dans ces conditions, évidemment, elles ne pouvaient participer à la société en tant que citoyennes. Et c'était tout à fait leur intention, donc il a fallu obtenir ces droits. Donc Maria de Rheims et ses amis, dont Louise Michel, André Léo, ont fondé des premières ligues féministes. Et Maria de Rheims est devenue donc une grande figure du féminisme réformateur sous la Troisième République, au XIXe siècle. Là-dessus, s'est créé un réseau qui était autour d'elle, un réseau de 130 personnes, une sorte de Facebook de l'époque, du XIXe siècle, et de façon à réclamer des droits pour les femmes. Et par la suite, la maçonnerie, et c'est pour ça que je préférerais inverser le titre, moi, de la table ronde, plutôt comment les femmes se sont appropriées la maçonnerie, en fait. C'est exactement le contraire du titre. C'est ce qui s'est passé, parce qu'il fallait convaincre la maçonnerie.
Oui, mais le titre,
maçonnerie.
C'est un détournement du corps.
Voilà.
Donc c'est rigolo.
Donc il fallait convaincre aussi la maçonnerie, qui était masculine. Il fallait la convaincre d'admettre les femmes sur ses rangs pour boucler la boucle et pour que les femmes puissent participer à ces grandes réformes. Et est né le féminisme réformateur, donc. Voilà. Et là, la maçonnerie a pris, à un moment donné, une décision grâce à des frères qui étaient favorables à l'initiation des femmes. En 1882, une loge a pris elle a initié Maria de Rheims contre l'avis de sa hiérarchie, mais en se basant sur le principe d'autonomie des loges. Donc Maria de Rheims a été initiée dans les mêmes conditions exactement que les hommes, et c'était donc la première femme initiée dans la même condition que les hommes. Mais ça a déclenché un scandale épouvantable, et pendant 11 ans, par la suite, elle n'a pu assister aux travaux maçonniques, elle a été exclue des loges. Et 11 ans plus tard, bon, il était temps de créer une maçonnerie mixte, parce qu'elle avait un cancer et elle est décédée peu après, donc avec le docteur Georges Martin. Mais derrière, évidemment, il y avait le soutien de beaucoup de frères du Grand Orient qui étaient favorables à l'initiation des femmes. Donc, en 1893, a été créée la première loge mixte de France, la grande loge symbolique écossaise, le droit humain.
8 ans après... donc il y avait aussi une autre obédience qui s'appelait la Grande Loge Symbolique Écossaise 2, puisque la première avait permis l'initiation de Maria de Rheims. Bon, je ne vais pas faire là. Et suite à un certain nombre de problèmes dans leur obédience, il y en a qui décident de retourner, d'aller voir du côté de la Grande Loge de France. Ce qu'il y a, c'est que c'était une obédience mixte, et que donc ils ont proposé à des sœurs qui étaient avec eux, et qui étaient des, pour certaines, des féministes aussi.
Radicales.
De les suivre à la Grande Loge de France, un rituel renouvelé de l'adoption, en espérant qu'un jour la Grande Loge de France laisserait une place aussi à une maçonnerie féminine. Alors ces femmes qui vont se retrouver à nouveau en maçonnerie d'adoption au XXe siècle, donc avec le rituel d'adoption légèrement corrigé, revu, vont être des femmes qui vont à la fois vouloir travailler sur le plan initiatique, mais aussi vont être des femmes, on le disait à l'instant, qui sont des féministes, qui sont quelquefois des féministes assez radicales, pas toutes, mais en tout cas, on peut, quand on voit leur PV de réunion, constater qu'elles envoient, y compris des délégués, des loges envoient des délégués au congrès féministe, et elles font, ces délégués font des retours dans leur loge de ce qui s'est passé au congrès féministe. Quand on regarde les travaux sur lesquels elles se sont, enfin, qu'elles se sont attachées à faire, il y a à peu près autant de sujets symbolistes et initiatiques qu'il y a peut-être même, peut-être plus, je ne sais pas, de travaux de réflexion sur l'éducation, la prostitution, etc. Le désir, la liberté des femmes, etc.
La réforme du code civil aussi. Hein.
La réforme du code civil. Donc elles sont... Donc il y a ces deux choses-là, et puis cette maçonnerie d'adoption donc féminine se développe de plus en plus, et finalement ça finit par gêner beaucoup la Grande Loge de France, qui va avoir envie de se débarrasser d'elle, on va dire, et va leur accorder leur indépendance au lendemain de la guerre, puisque les femmes ayant le droit de vote, eh ben, elles peuvent devenir des francs-maçonnes. Donc elles sont encore au rite d'adoption, elles passeront après des rites plus habituel en maçonnerie. Donc ça, c'était le point histoire. Pour aller très vite, on a fait ça en TGV. Mais maintenant, je pense qu'on va passer à autre chose.
Effectivement, on va continuer un peu plus loin. Alors, il y a donc des femmes dans toutes les dans les loges, mais pourquoi choisir éventuellement de travailler en mixité ou de travailler rien qu'entre femmes? Marie-Dominique, est-ce que c'est pas aller contre le siècle que de travailler rien qu'entre femmes?
Alors, si je fais d'abord le lien avec les mouvements des femmes, d'émancipation des femmes, et avec l'histoire de la maçonnerie féminine, eh bien, on peut constater que tout au long donc, du XXe siècle, il y a eu, et à la fin du XIXe, il y a toujours eu des femmes pour dire c'est ensemble qu'on doit obtenir les choses sur les droits des femmes, et d'autres qui disaient si on ne lutte pas nous-mêmes, les hommes ne seront pas là, ils seront peut-être là pour nous aider de temps en temps, mais nous ne ferons pas avancer tout ce que nous avons à avancer. Donc en fait, il y a donc sur le plan sociétal, on a deux points de vue qui se sont confrontés finalement pendant plus d'un siècle. Et si on prend sur le plan initiatique, qui est un point de vue qui m'est, pour moi, qui est très très important, il est évident que, ne serait-ce que socialement, culturellement, du point de vue du vécu des femmes, il est certain que nous n'avons pas tout à fait la même histoire que les hommes. Il est certain qu'au XVIIIe siècle, on a dit tout à l'heure, la femme n'était pas un sujet, elle n'était pas un sujet historique jusque-là, et pourtant, jusqu'au XXe siècle, et pourtant, eh bien, elle a une expérience, elle a participé à un certain nombre de choses, elle a aimé, elle a eu des enfants ou pas, elle a choisi d'en avoir ou pas. Elle a vécu dans son corps un certain nombre de choses et elle a promené avec elle tout au long de sa vie un certain nombre d'histoires, un certain nombre d'éléments de son vécu de femme qui l'ont tissé, mais qui l'ont tissé aussi en relation avec toutes sortes de choses qui remontent jusqu'à l'Antiquité. Ce tissu-là, ce vécu-là, va entrer en correspondance profonde avec nos rituels maçonniques, avec ce cheminement. La maçonnerie est un ordre initiatique, ce n'est pas une association sociale comme il en est de nombreuses. Donc en fait, ce cheminement intérieur que nous propose la maçonnerie, nous, femmes, c'est mon point de vue, si nous voulons le mener avec en prenant le temps, en vraiment en cherchant en nous, en essayant de nous réaliser, je pense, en tout cas moi j'avais fait le choix, de choisir une maçonnerie féminine. Et dire, est-ce que c'est décalé par rapport à notre époque? Que constatons-nous aujourd'hui? Que la franc-maçonnerie féminine se développe, que la franc-maçonnerie mixte se développe, ce qui veut dire que nous avons le choix, que nous, si nous voulons travailler en mixité, nous le pouvons, si nous voulons travailler en non-mixité, en monogenre, nous le pouvons. Moi, je vous disais, j'ai fait ce choix du monogenre, mais il me paraît important, peut-être que nous y reviendrons tout à l'heure, que nous mettions en avant tous, hommes ou femmes, quelque chose qui me paraît fondamental, c'est la quête de notre féminin, les Jungiens diraient de notre anima, peu importe. Mais nous parlerons peut-être de ce chemin tout à l'heure.
Dominique, vous en tant que femme, que vous apporte le fait de travailler en fait avec des hommes ?
Alors moi ça m'apporte énormément, parce que la mixité c'est la vraie vie pour moi. Et la sensibilité masculine est complètement complémentaire. Elle apporte un angle de vue différent, complémentaire. Et moi, je me sens extrêmement bien, justement. C'est une harmonie équilibrée. Mais pour rebondir sur ce que disait Marie-Dominique, au XIXe siècle, il existait aussi des ligues féministes qui ne voulaient pas accepter les hommes. Donc c'était dans la lignée un petit peu. Elles voulaient préférer travailler entre femmes, militer entre femmes. Mais le but des fondateurs du droit humain, c'était tout de même de respecter la devise républicaine. C'est-à-dire que pour eux, sans égalité et sans liberté, il ne pouvait pas y avoir de fraternité. Et la maçonnerie masculine, qui longtemps a refusé de reconnaître le droit humain, refusait justement, et de l'avis des fondateurs, ne respectait pas la devise républicaine. Voilà, mais pour ma part, je suis tout à fait ravie d'être dans une obédience mixte. Mais nous avons, comme disait Marie-Dominique, de nombreuses passerelles entre nous. Nous travaillons en harmonie aussi, et tout à fait bien. Et tu as raison, c'est une histoire de choix. Ça n'est pas une compétition, ça n'est pas un dogme, justement. C'est un ordre initiatique, donc on peut laisser libre choix. Et chacun choisit selon ses sensibilités et ses aspirations.
Et puis on peut travailler avec des loges masculines, y compris quand on travaille en loge féminine de temps en temps, échanger des travaux avec des loges masculines ou des loges mixtes, c'est important aussi. Mais pour l'essentiel, le travail effectivement pour nous se fait d'abord en loge féminine.
Ce qui vous rassemble en quelque sorte, Dominique, c'est d'être des sociétés initiatiques, adogmatiques.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Absolument.
Nous avions convenu de parler une petite vingtaine de minutes entre nous avant de vous laisser la parole. Alors, quelqu'un souhaite-t-il poser une question ou relancer le débat ? Monsieur ? Attendez. On ne va pas vous entendre. Je vous apporte le micro.
Donc je disais, on est en 2017 et vous avez parlé du fait que vous avez des contacts avec des loges masculines, féminines ou mixtes. Comment est-ce que vous expliquez que dans, je crois, 90% des pays anglo-saxons, il y a encore une grosse présence de maçonnerie régulière qui refuse tout contact maçonnique avec des femmes? Comment est-ce que c'est quelque chose que vous expliquez, et est-ce que c'est quelque chose que vous combattez? Est-ce que c'est quelque chose pour lequel vous luttez? Enfin, un petit peu, voilà, savoir quelles sont vos opinions et votre ressenti par rapport à ça.
Je pense que nous n'avons pas eu le même parcours en France. La Révolution française, c'est quand même très particulier. Nous tenons énormément à la laïcité. Enfin, nous n'avons pas eu le même parcours du tout qu'en Angleterre. Hein. C'est plus traditionnel. Je pense que, Marie-Dominique, tu peux...
Oui, mais bon, cette maçonnerie qui ne reçoit pas les femmes, je dirais presque qu'elle est peut-être maintenant plus virulente dans certains endroits du vieux continent qu'en Angleterre. Puisqu'ils reçoivent, Roger Daché vous l'expliquerait, des sœurs dûment reconnues, mais une fois de temps en temps. Il y a des obédiences qui, de temps en temps, justement, s'ouvrent et font des réunions communes avec des sœurs, d'autres pas. Ça ne nous empêche pas de nous retrouver sur d'autres chantiers, tous ensemble, d'échanger, de travailler sur des thématiques communes. Alors c'est vrai que nous n'avons pas de tenue ensemble. Une tenue, c'est une réunion de francs-maçons avec un rituel, etc. Mais nous pouvons échanger avec eux. Alors suivant les époques, les relations sont plus ou moins tendues, plus ou moins sympathiques, plus ou moins dans le partage. Mais c'est évident que j'ai pu entendre encore, il n'y a pas si longtemps que ça, un grand maître d'une obédience française dire qu'effectivement la maçonnerie était un ordre initiatique créé par des hommes pour des hommes. La réalité semble pourtant lui donner tort, puisque je crois qu'en Belgique 30% des francs-maçons sont des femmes. On n'est pas encore à la parité, mais enfin bon, je pense que bon, voilà, en si peu de temps c'est pas mal. Et en France, c'est un peu moins bien. Mais bon, de toute façon, il y a quand même pas mal de femmes. Donc, de ce côté-là, la partie est largement perdue pour ceux qui estiment que les femmes ne sont pas initiables. Ou bien, disait-on autrefois, pardonnez-moi, j'ai un peu une bronchite, elles sont naturellement initiées puisqu'elles donnent le jour. Alors, ce genre d'argument, bien entendu, a de quoi faire un peu sourire. Mais toute initiation, dit un écrivain qui s'appelle Gaston Poléfa, qui est un écrivain tout à fait intéressant, toute initiation est une mise au monde. Qui dit mise au monde, eh bien dit, quelles que soient les sociétés initiatiques, quels que soient les pays, on se met au monde. Si on se met au monde soi-même, ça veut dire que, eh bien, on est enceint de quelque chose, qu'on soit homme ou femme, et cet enfant qu'on met au monde dans une initiation, c'est soi-même. Donc il y a de toute façon une part de féminin que les hommes comme les femmes cherchent, qu'ils aient ou non porté un véritable enfant, physiologiquement, on va dire. Donc cette mise au monde-là, elle est très importante, et je pense que d'abord, il y a beaucoup de femmes, il y a des femmes qui nous lient par. Bon. Donc, travaillons sur ce que ça veut dire en nous, le désir de mettre au monde, par exemple. Pourquoi les francs-maçons disent qu'ils sont, vous ne le savez peut-être pas, mais je vous le dis, enfants de la veuve. Qu'est-ce que cette veuve, sur le plan mythologique, il y a plein de choses à dire sur cette veuve, que ce soit Isis, que ce soit la nature, que ce soit peu importe. Il y a plein de choses à dire. Bon, cette veuve, elle stimule l'imaginaire des francs-maçons. Et oui. Donc, qu'est-ce que ce féminin qui est à l'œuvre en vous, en chacun de nous ?
Je suis tout à fait d'accord avec ça. Et tu parlais d'une société initiatique qui était, donc la société masculine, qui était une société par et pour les hommes. C'était exactement le cas de la société civile au XIXe siècle. Donc, je pense qu'il faut quand même sortir du 19e siècle. Maintenant, il est temps.
Donc, vous êtes résolument pour une maçonnerie mixte.
Oui, forcément. mais on insiste bien toutes les deux sur la qualité du choix, l'importance du choix. Nous ne sommes pas là pour convaincre. Et souvent, quand nous orientons les profanes qui viennent nous voir, nous les orientons en fonction de ce qui leur convient le mieux.
C'est très important. Voilà.
Donc j'ai envie de dire, pas de sectarisme entre vous. Est-ce qu'il y a une autre question ? J'arrive avec le micro parce que vous êtes loin.
Bonjour. Je suis reconnaissante pour cette ouverture.
Je vous entends mal, est-ce que vous pourriez ne pas trop bouger le micro ?
Donc, je suis très reconnaissante pour cette ouverture des portes et pour l'opportunité que vous me donnez de vous écouter. Si vous me permettez, ce que j'ai entendu jusqu'à présent par l'historique du début, c'était dans mon oreille, carrément, la même chose que l'évolution de la société. Donc, l'évolution de la franc-maçonnerie me montre la même chose que l'évolution de la société. Ce que je constate, par contre, c'est que nous sommes dans un blocage. Du côté, on a des loges masculins qui s'entêtent toujours dans leur ego. De l'autre côté, on a des loges féminins qui forment leur ego parce qu'en se sentant, voilà, la petite femme qui a ses petites choses et qui se développe, tatati, c'est garder quand même quelque chose à part pour moi, hein, et faire garder une différence. Et on a de l'autre côté une tendance mixte, donc une tendance évolutive pour moi, hein, qui se garde tout en respect par rapport à l'ancien loge masculin et aux loges féminins qui sont apparues par après. Mais ce que je constate aussi, c'est qu'on avance lentement et péniblement. Parce que, bon, on veut garder le respect, hein, mais l'idée, c'est d'aller de l'avant, c'est d'avancer. Toute évolution se résume à cela, à l'évolution. D'accord ? On aime bien la femme et ses petites habitudes, on aime bien l'homme et ses petites habitudes. Vous avez bien remarqué, il y a des sensibilités différentes, mais pourquoi ? Pour les mettre ensemble, pour qu'elles travaillent ensemble, parce que l'évolution ne peut pas venir d'ailleurs.
Est-ce que vous pourriez préciser ? Là, je suis un peu perdue, s'il vous plaît.
Pardon ?
Travailler ensemble... Est-ce que vous pourriez préciser ?
Mais justement, je venais de rappeler ce que vous avez dit. On est deux pour faire un enfant. À qui on transmet quoi ? Notre vécu commun. Hein ? Si on reste séparé des deux côtés, on va transférer à cet enfant plus de tensions, nos tensions, hein, que le fruit de notre collaboration, notre richesse commune. Donc, je constate qu'il y a beaucoup de tensions et je constate que la franc-maçonnerie se trouve carrément dans l'air du temps avec ces tensions. Mais est-ce que, et c'est là ma question, est-ce qu'il y a dans cette branche du milieu qui combine les deux tendances, est-ce qu'il y a une place forte pour aider les autres à s'unir un petit peu plus que de rester de son côté pour aller de l'avant, pour faire avancer cette franc-maçonnerie. Parce que tout système, toute organisation, toute religieuse ou peu importe, mystique, peu importe, n'a pas d'importance. C'est important qu'elle avance, qu'elle aille de l'avant, qu'elle apporte des changements. Parce que c'est par toutes ces organisations-là que le monde entier change aussi. Est-ce qu'il y a vraiment ce objectif de pousser en avant, d'unir les deux côtés, leur expérience, hein, leur vécu, leur passé, pour faire avancer et collaborer plus que de rester, voilà, chacun avec ses petites...
Alors, j'ai compris votre objectif. Question, je vais donner la parole à Dominique après. Mais je voulais juste vous dire, madame, que l'histoire, les mythes, c'est pas seulement du passé, c'est du présent. Quand on pense à la déesse Hécate, elle n'est pas particulièrement en train de broder, elle n'est pas particulièrement gentillette et benette. Quand on pense à la révolte d'Antigone, par exemple, on a quand même une grande figure de femme qui se dresse devant une société. Donc ça, c'est l'Antiquité. Quand on pense à une bâtisseuse qui s'appelait Berthe de Roussillon et qui construit la cathédrale de Vézelay, quand on pense qu'elle a été aussi une chevaleresse, on peut se dire aussi qu'il y a peut-être un travail d'histoire à faire pour essayer de rétablir un certain nombre de choses. Bien, et que souvent, c'est en faisant le détour par le passé qu'on va comprendre le présent. Donc les femmes, il ne faut pas les réduire à simplement des petits travaux gentillets. Les femmes de tout temps se sont dressées, première chose. Alors ensuite, je vais donner la parole à Dominique pour la question plus précisément.
Je pense avoir compris ce que vous demandez, madame. Je pense rappeler qu'un ordre initiatique, évidemment, ça n'est pas, comment dire, un groupe qui avance d'un seul bloc. Un ordre initiatique, le propre de l'ordre initiatique, c'est que chacun travaille sur soi. Et le cheminement initiatique est particulier, personnel. Donc évidemment, on ne peut pas prévoir une stratégie de conviction, une avancée commune. Ça n'est pas possible. Donc après, les choses se font lentement. Certaines obédiences mixtes et de plus en plus deviennent mixtes en optant pour quelque chose de justement qui évolue. Mais c'est très important ça. Tous les maçons, enfin chaque maçon dans la loge avance à son propre rythme. Et surtout pas en tenant compte de l'avancée générale du groupe. Vous voyez ce que je veux dire?
Et même mieux que ça, j'allais dire aussi, on voit arriver beaucoup de jeunes femmes qui choisissent de venir travailler en non mixte, parce qu'elles sont toute la journée en mixité, où elles se battent sans arrêt pour assurer leur carrière professionnelle. Et elles ont vraiment besoin de se retrouver tranquillement, sans jugement, sans combat, en cherchant véritablement dans leur travail intérieur avec des frangines, quoi, comme quand elles étaient petites, par exemple, ou autrement, mais en tout cas, d'être un peu en milieu féminin. Donc ça aussi, la société évolue de telle manière qu'elle développe l'animus féminin et que nous avons peut-être aussi besoin de ne pas oublier notre anima.
Pour résumer ce qui vient d'être dit, c'est donc l'histoire personnelle de chacune.
Voilà.
C'est donc l'histoire personnelle de chacune qui fait que l'on choisit, si on est bien guidé, d'entrer dans une maçonnerie mixte ou féminine ou masculine, suivant les cas. Donc l'histoire de chaque futur maçon.
Absolument.
Vous entendez?
Non, on n'entend pas.
On n'entend pas. Excusez-moi, on n'entend pas.
On va peut-être répartir un petit peu la parole aussi pour que tout le monde puisse s'exprimer.
Merci. Donc vous avez parlé des cadres et je suis très contente parce que c'est une figure extraordinaire et je me retrouve très bien dedans. Je vois beaucoup de symboles et la franc-maçonnerie se base sur des symboles, comme beaucoup d'autres d'ailleurs que j'étudie. Bon, on prend E4. C'est quoi E4? C'est ce qui vient au carrefour pour présenter des choix. Et maintenant, on est dans un carrefour, l'humanité se trouve dans un carrefour, et il y a très peu de choix. Et on peut bien voir ce que cela apporte. Je pense que justement, je reprends, on doit bien penser à Hécate et Antigone aussi, à leur histoire, les ramener dans le présent, regarder bien les choix qui se présentent, et faire le choix qu'il faut. Merci.
Ben oui.
Tant que je suis debout, est-ce que quelqu'un... Oui, voilà. La première et puis la seconde.
Moi, je voulais juste dire qu'en première heure, j'ai assisté au discours d'un monsieur qui était un petit peu rabique vis-à-vis des femmes et qui est venu en jupe. Donc, je pense que la vie est un voyage qui va de soi à soi, que... ce voyage n'est pas sexué et que grandir, ça n'est pas sexué non plus.
Voilà, c'est un peu l'esprit. Tout à fait.
Merci de m'accorder la parole. Moi, je suis une sœur d'une loge mixte et je n'ai pas du tout eu jamais envie de faire la démarche pour rejoindre une loge exclusivement féminine. Mais par contre, madame, je tiens à rappeler qu'en maçonnerie, là, on n'est pas dans un débat qui a raison, qui a tort. Je pense qu'on est dans un choix, comme nos deux sœurs l'ont rappelé. Donc, il n'y a pas de bon, il n'y a pas de mauvais. Il y a le chemin que chacun ou chacune d'entre nous choisit sur lequel chacun ou chacune choisit de s'engager, qu'il n'y a pas à critiquer, puisque les portes sont toutes ouvertes. Il suffit simplement de frapper à la bonne, à celle qui nous correspond le mieux. Et comme ça se fait en toute liberté, pour moi... ça se fait sans critique. J'ai pu être invitée à la consécration d'un temple qui sera du reste exclusivement réservé aux hommes. C'était un beau partage. Après, j'y remettrai plus les pieds. Mais il y a des partages qui se font d'une loge à l'autre. Et je pense que votre intervention est très critique et très... Enfin, moi, je la trouve un peu, je ne vais pas dire agressive, mais en tout cas très... voilà. Et ce n'est pas comme ça que ça se passe en loge. On n'a pas tort, on a raison. On a chacun des opinions différentes. J'ai dit.
Mais ça n'est pas très... Ça n'est pas forcément gênant, dans la mesure où dès que nous sommes initiés, nous devons commencer par tout déconstruire. Et donc ça va bien avec ce que tu dis, ma sœur. Donc on commence à réviser un petit peu ce à quoi on croyait, les convictions. Et ça, c'est un énorme chantier. Et ça prend un petit moment. Et donc effectivement, on peut très bien être critique et puis ensuite changer. L'homme est perfectible, la femme aussi d'ailleurs.
Oui, merci. Il faut rappeler que les obédiences masculines sont susceptibles de recevoir des sœurs en visite. Certaines obédiences s'y refusent, mais ne refusent pas, ne boutent pas leur plaisir à venir en visite dans les obédiences féminines. Et surtout, pour reprendre ce que vous disiez de l'époque, de certaines obédiences françaises autorisent la double appartenance à la Grande Loge féminine, aux droits humains. Initialement, ce fut décidé en raison d'éloignement géographique de sœurs qui se trouvaient dans des pays étrangers où la Grande Loge féminine n'existait pas. Donc, elles ont été autorisées à fréquenter les loges du droit humain. Je ne sais pas s'il en avait
le
même.
Le Grand Orient aussi, c'est possible maintenant.
Oui, oui. Et maintenant, eh bien, il n'y a plus besoin d'être à l'étranger, d'être exilé salarial. On peut appartenir à deux obédiences. Alors, je vais ranimer le débat en disant que moi, je ne comprends pas beaucoup. Soit on choisit une obédience masculine, soit on choisit une obédience féminine. Se joindre en plus à une obédience mixte, bon, moi, je ne comprends pas, mais en maçonnerie, toutes les idées et toutes les positions, pourvu qu'elles ne contreviennent pas à nos règlements généraux, sont parfaitement recevables et respectables. J'ai dit.
C'est ça.
J'ajoute simplement que la double appartenance est également possible en Belgique.
Voilà.
Madame, on va peut-être laisser la parole à d'autres.
Merci Martine. Ce sera très bref de toute façon. C'est une réflexion. Je vois avec plaisir que la maçonnerie féminine avance, uniquement féminine, avance sans complexe et sans sentiment de culpabilité. C'est très bien, on ne peut pas en dire autant de la franc-maçonnerie uniquement masculine, du moins en Belgique. Voilà.
Merci pour cette remarque.
Bonjour à tout le monde. Bonjour à tout le monde. Je voudrais dire, à mon opinion personnelle, je n'ai jamais estimé que la femme est l'inférieure de l'homme, que l'homme est supérieur. En égalité, la seule différence... c'est physiquement l'homme est plus musclé. Et puis, les maçonneries, puisqu'ils croient à la lumière, et la lumière c'est universel au-delà, elles appartiennent à la femme, elles appartiennent à l'homme, et tous les deux, on est égaux. Voilà.
Je crois que nous sommes tous d'accord, madame, là-dessus. Nous sommes tous d'accord.
Un autre intervenant ?
Un peu au fond.
J'arrive.
Oui, mais j'avais entendu madame ici parler de que chacun était dans son ego, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Or, j'ai entendu à un autre moment qu'on parlait de déconstruire. Est-ce qu'une partie du travail initiatique, ce n'est pas justement de remettre en question son ego en déconstruisant avant de le reconstruire? C'est en tout cas, dans l'alchimie, c'est ce qui est proposé.
Oui, mais je pense que vous devez savoir aussi, monsieur, que la construction d'un ego pour une femme n'est pas tout à fait la même chose pour une petite fille que pour un homme, que pour un garçon. Et que historiquement, eh bien, on a façonné les femmes autrement. Qu'il y a des théories psychanalytiques qui expliquent que c'est un garçon et une fille, ça ne se construit pas de la même manière. Donc peut-être que dans ce qui est à travailler dans un certain nombre de choses qui sont à déconstruire. Il n'y a peut-être pas que cet égo-là, et en tout cas, il y a peut-être plus l'égo du côté des garçons que du côté des filles. Ça ne veut pas dire que les filles n'aient pas d'égo, parce que quelquefois, pour pouvoir s'imposer, elles sont obligées, au contraire, de développer leur égo. Et ça nous donne des personnages historiques hauts en couleur. Ce n'est pas parce qu'une femme est une femme, effectivement, qu'elle n'a pas d'égo, bien entendu. Donc, selon les gens, ce qui est à déconstruire, ce n'est pas forcément l'égo, ça peut être d'autres choses. Hein. Ça peut être des tas de défenses intellectuelles, chez des gens qui sont brillants intellectuellement. Ça peut être des tas de craintes, de gens qui ont peur de ne pas parvenir. Il y a toutes sortes de choses. Ça peut être du ressentiment. Il y a des tas de choses. Et surtout, il y a l'apprentissage qui consiste à écouter l'autre. L'autre qui vous dit un point de vue qui est totalement à l'opposé de ce qui vous paraît essentiel. Mais bon, en maçonnerie, on écoute l'autre, ce que disait tout à l'heure la personne. Et en fait, sur le coup, on va trépigner, mais bon sang, mais qu'est-ce qu'il ou elle raconte? Mais c'est incroyable, mais c'est pas possible. Et puis, la chose va faire son chemin en nous, quelquefois pas tout de suite. Mais il y a quelque chose qui est rentré, et on va finir par entendre le discours de l'autre, à un moment donné, autrement, parce qu'on l'aura pris en compte, et parce que nos certitudes, nos clichés sociaux ou intérieurs, nous les aurons un petit peu déconstruits.
Il va être l'heure de conclure déjà. 45 minutes, ça passe vite. Alors Dominique, une conclusion.
Oui, ce que vient de dire Marie-Dominique, ça s'appelle donc tailler sa pierre. Et c'est exactement ce que nous faisons. Et c'est vrai qu'il faut partir de la déconstruction pour reconstruire différemment. Et donc, je vais terminer par une phrase de l'une de nos fondatrices, Clémence Royer, qui était une grande scientifique, hein, qui a traduit l'origine des espèces de Darwin, et qui disait, puisque la maçonnerie masculine, puisque nos frères n'ont pas voulu que nous construisions notre maison, ou du moins nous accueillir dans leur maison, nous avons construit notre maison à côté de la leur, mais pas contre eux. Et ça, c'est très important. Parce qu'il n'y a pas justement, il n'y avait pas d'animosité chez eux, et c'était tout à fait une maison mixte et sans compétition, sans agressivité. Voilà, j'ai dit.
Un dernier mot, Marie-Dominique.
Ben Dominique vient de parler de la maison. Les francs-maçons, quand ils parlent de la maçonnerie, ils parlent de leur maison. Et il semble bien que la maison soit aussi une symbolique de l'ordre du féminin.
Mesdames, Messieurs, je vous remercie d'avoir assisté à ce débat, mes frères, mes sœurs également. Et donc, la maçonnerie est venue aux femmes depuis très longtemps, depuis le XVIIIe siècle. Les femmes ont eu un rôle dans l'histoire, parfois très faible, mais elles ont eu un rôle tout au long de l'histoire, et cela continue encore aujourd'hui. Je vous remercie.
Merci à tous.